Bon, je vous propose qu'on commence donc notre conférence. Alors d'abord, première chose, Caroline Isambert, qui devait être présente ce soir, a été bloquée par la grève du RER dans sa région d'Île-de-France, donc n'a pas pu prendre le train. Mais elle a laissé à Anne-Cécile le contenu de son exposé. Donc ce soir, le sujet, c'est la population migrante, quelles sont les ressources, les obstacles à l'accès aux soins. Et Anne-Cécile va nous présenter donc un exposé, d'abord dans un premier temps global sur la question, et puis ensuite elle va l'illustrer par un exemple rennais, car elle est à la fois sur Poitiers et sur Rennes. Voilà. Donc je lui laisse la parole. Donc je pense que l'intervention dure à peu près 1 heure, hein, environ, puis ensuite on aura le temps, largement le temps pour débattre.
Vous m'entendez bien? C'est bon? Donc oui, alors deux choses. Tout d'abord, je remercie Patrick Bouet et puis l'association Aspès d'avoir nous avoir invités ce soir pour échanger autour de ces questions. C'est toujours un plaisir de venir parler, enfin de venir discuter ensemble. Et deuxième chose, donc j'ai toutes les excuses de Caroline Isambert à vous présenter. Donc elle n'a pas pu venir ce soir pour les raisons que Patrick vient de citer. Je vous ai mis ici en affichage deux liens vers des articles qui renvoient aux travaux de Caroline Isambert. Et puis, du coup, comme on a un petit peu de temps, je vais prendre le temps de synthétiser ce qu'elle comptait donc présenter ce soir sur les questions de soigner les étrangers en situation irrégulière, les associations entre combat politique et délégation de services publics. Donc Caroline Isambert, elle est historienne et elle voulait revenir sur, et elle revient à travers sa thèse, sur les 30 dernières années et l'évolution des rapports entre l'État et les associations dans la prise en charge des populations en marge du système de soins et plus précisément sur la question des étrangers en situation irrégulière. Donc elle avait prévu de faire un panorama en 3 points, sur tout d'abord les processus d'exclusion progressive des sans-papiers du système de droit commun. En deuxième point, elle avait prévu d'aborder les questions de l'investissement de ce champ, donc l'accès aux soins des personnes en situation irrégulière, par des associations médicales sur le terrain local. Et enfin, elle voulait souligner le travail de ces associations qui étaient pris entre le paradoxe entre nécessité de soigner et politique sécuritaire, politique d'immigration restrictive. Donc, elle voulait montrer cette évolution sur les trois grandes étapes historiques. Une première étape entre 1945 et 1993, une période qui a connu et qui a vu l'inclusion progressive des personnes en marge du système de santé être récupérée, donc dans le système de droit commun, avec une limite qui a commencé à se dessiner au début des années 90 et surtout en 1993, avec les lois Pasqua et puis les limites qui ont été introduites dans la loi avec les conditions de régularité du séjour pour l'obtention des droits à la santé. Ensuite, elle balayait une seconde période qui est la période des années 80-90 avec donc l'investissement de ce champ de l'action médicale et ses impacts sur l'invention de dispositifs pour accueillir les publics précaires. Donc elle voulait souligner les inventions nombreuses qui sont intervenues au cours de cette période, notamment toutes les inventions qui ont été faites autour des modes de prévention et tous les acquis aussi qui sont sortis de cette période un petit peu de mobilisation des associations avec tous les acquis, notamment le principal acquis est celui de traiter la santé en sortant du modèle biocuratif. Mais en même temps, elle souligne que cette action, donc une action des associations, se substitue finalement à l'action de l'État. Donc tout ce qui peut apparaître comme un cercle vertueux, donc toutes ces prises d'initiative et toutes ces réflexions autour de la santé et du soin, s'est soldé sur une décision qui a été lourde de conséquences politiquement, c'est-à-dire la mise de côté des étrangers en situation irrégulière et surtout en fait leur éviction et leur inscription dans un régime d'exception. Avec notamment donc la mise en place de l'AME à partir de 1999. Et troisième temps de sa recherche, c'est les années 2000, où on voit donc sur les 10-11 dernières années, ces associations prises au piège des politiques répressives, des associations que l'on laisse soigner, que l'on laisse prendre en charge l'urgence et que l'on laisse être en première ligne dans l'accès aux soins, tout en ne leur laissant plus que ce droit de soins comme seul droit légitime pour s'occuper des personnes en situation irrégulière. Donc ces associations accueillent aujourd'hui un public dont les obstacles à l'accès aux soins n'est plus du fait des conditions socio-économiques comme l'était auparavant, mais bien un public dont les difficultés d'accès aux soins sont liées à leur situation administrative. Comme on avait prévu en fait de coordonner nos interventions avec Caroline Isambert, moi étant géographe et travaillant plus sur les ressources et les entraves à l'accès aux soins, mais d'un point de vue socio-spatial, je prends le relais maintenant avec mon intervention que j'intitule donc ressources et entraves à l'accès aux soins. Quels sont les facteurs intervenants dans l'accès aux soins des migrants et en particulier des primo-arrivants en France? Donc moi, dans mon exposé, je soulignerai tout particulièrement l'ensemble des facteurs qui se combinent et qui entrent en jeu dans l'accès aux soins des migrants, donc en prenant en compte à la fois les ressources pour la santé, mais aussi les contraintes et les entraves. Alors les dernières recherches et les diverses recherches même qui ont été réalisées à ce sujet ont souligné que l'accès aux soins des migrants se rapprocherait de l'accès aux soins des populations autochtones situées au bas de l'échelle socio-économique. Donc vous avez l'ensemble des rapports de l'IRDES, par exemple, ou l'enquête trajectoire et origine de l'INED qui montre ces processus. Cependant, les déterminants socio-économiques ne sont pas les seuls facteurs explicatifs des difficultés d'accès aux soins. Et cet accès aux soins des migrants s'expliquerait également par une combinaison complexe de divers facteurs, tels que les impacts des politiques mises en œuvre par la société dans le champ de la santé et celui de l'immigration. Donc c'est tout ce que j'ai rapidement synthétisé des travaux de Caroline Isambert. Il y a également tous les facteurs qui sont liés à la situation de nouveaux venus dans le pays, donc par exemple la méconnaissance de l'offre de soins locale qui peut intervenir comme facteur de retard. Les facteurs géographiques également qui questionnent les distances aux structures de soins, les mobilités qu'il faut mettre en œuvre pour avoir accès à ces structures de soins, des facteurs qui questionnent également les quartiers de résidence et la façon dont ils sont pourvus ou non de structures de soins. Et enfin, les facteurs individuels qu'il ne faut pas oublier, qui sous-entendent que l'accès aux soins et les représentations de la santé, de la maladie et de la guérison sont différents d'un individu à l'autre. Donc dans ma présentation, moi, je chercherai à exposer l'articulation et l'importance respective de ces différents facteurs qui entrent en jeu dans l'accès aux soins. Et pour répondre à cette question, donc quels sont ces facteurs qui interviennent, j'articulerai mes propos autour de deux échelles d'analyse. Une première échelle, qu'on va dire macro, donc une échelle un petit peu globale, un petit peu surplombante, qui consistera à revenir sur ces facteurs de l'accès aux soins en termes de ressources et en termes d'entraves. Et dans une deuxième partie, je me concentrerai sur l'échelle micro, donc l'échelle locale, l'échelle de la ville et l'échelle des individus et de leur parcours de soins, en revenant sur une étude donc, que j'ai menée à Rennes avec des collègues de la fac de médecine sur les logiques de recours aux soins chez les primo-arrivants. Alors avant de commencer ça, je voulais revenir sur les spécificités de ce champ d'études santé et migration du point de vue des sciences sociales. Je trouvais important de faire un point là-dessus et de souligner à nouveau les caractéristiques et les points de contexte spécifiques à toutes les études qui s'articulent autour de l'accès aux soins des migrants. Alors, premier point, qui est un point de cadrage un peu théorique sur ce champ de la santé et des migrations, Alors, c'est un champ de recherche qui suppose que l'on utilise le modèle, un modèle social de la santé et qu'on applique cette idée de modèle social de la santé à un groupe précis de la population qui est les migrants. Donc, on est là dans l'articulation de deux grandes thématiques assez complexes. Donc, par modèle social de la santé, on entend prendre en compte tous les déterminants élargis de la santé ainsi que toutes les pratiques individuelles relatives aux soins. Et utiliser ce modèle de la santé, enfin cette définition de la santé, et l'utiliser dans le cadre des recherches sur les migrants sous-entend qu'on considère l'idée de santé comme socialement construite dans la société d'accueil et socialement construite au sein des groupes qu'on étudie. Donc quand on travaille sur la santé des migrants, on ne peut réduire cette relation à un lien direct explicatif entre origine et état de santé ou origine et accès aux soins. Quand on parle de santé des migrants, on se réfère à toute une construction mêlant à la fois les déterminants sociaux de la santé, mêlant les impacts des politiques d'immigration, du social et de la santé publique à différentes échelles, mêlant également les pratiques de soins des migrants, mais aussi des professionnels de la santé et du social qui travaillent à leur contact. Et enfin, c'est un champ qui concerne également les contextes de l'action citoyenne à destination des migrants, qu'il s'agisse d'initiatives qui viennent de la population générale, du milieu associatif ou de la population migrante. Donc on est là dans un champ qui joue comme ça à la fois sur la mise à disposition de ressources sociales, économiques, spatiales et la présence de facteurs qui entravent potentiellement l'accès aux soins. Deuxième point de contexte, toujours sur la complexité de l'objet d'étude. Et là, je parle en tant que géographe. La problématique vient également de la multiplication des niveaux d'intervention et de décision au sein de chaque domaine politique qui est concerné. Donc, comme je viens de le dire, on est là dans l'étude des politiques d'immigration, dans l'étude des politiques du social, dans les politiques de la santé. Donc, c'est trois domaines complètement différents et trois domaines qui sont en tension entre prérogatives supranationales, donc fait des injonctions donc à respecter ce droit fondamental qui est l'accès aux soins sans différenciation de l'origine nationale ou ethnique des individus. Donc cette échelle supranationale est en tension avec les politiques nationales aujourd'hui qui tendent à mettre en place des politiques d'immigration ou des politiques de social extrêmement dures, et en tension également avec l'échelle locale qui est l'échelle de l'action et de la mise en œuvre d'intervention pour pouvoir permettre de garantir un accès aux soins pour les personnes les plus marginalisées. Enfin, c'est toujours dans ce deuxième point sur la complexité du domaine d'études, on est là aussi on est là face à des contextes individuels multiples qui sont des contextes migratoires, des personnes qui sont en migration, donc qui ont des statuts administratifs divers, changeants, des difficultés linguistiques variant aussi d'un individu à l'autre, et on est aussi en présence d'individus qui ont différents rapports et différents rapports au système de soins et différentes représentations de la santé, de la maladie et de la guérison. Troisième point, qui concerne cette fois les lieux de soins et le maillage de lieux spécifiques. Quand on étudie le recours aux soins des migrants et en particulier le recours aux soins des primo-arrivants, on se rend compte qu'on est amené à étudier des lieux précis qui sont soit les structures du système dit de droit commun, mais finalement on les retrouve très peu dans les logiques d'adressage en raison d'un ensemble de difficultés d'accès qui sont liées à des discriminations ou des processus de discrimination ou des dysfonctionnements de certains services. Mais surtout on se retrouve à travailler sur des structures d'accueil aux personnes exclues du système de droit commun. Des structures d'accueil qui très souvent résultent d'initiatives locales, donc qui sont très variables d'une ville à une autre. Des structures d'accueil qui ont des statuts associatifs et des missions qui sont reliées aux priorités repérées à l'échelle locale. Et des structures aux objectifs constamment négociés et ajustés entre acteurs locaux et révisés à mesure des changements des orientations dans les politiques nationales. Donc, en somme, C'est pour ça que je voulais faire ce point. On est là dans un domaine qui est extrêmement complexe, qui se joue à différentes échelles, qui implique différents domaines de l'action politique, qui implique l'étude d'un maillage de lieux précis et qui est caractérisé par l'importance des processus de négociation des actions qui vont être faites à destination des migrants et en particulier des primo-arrivants. Donc j'en arrive maintenant à l'analyse des facteurs de l'accès aux soins des migrants à l'échelle macro. Donc ce que je vous affiche là, c'est le résultat d'un travail pluridisciplinaire et international qu'on a mené avec une équipe de chercheurs en géographie, en histoire, en sociologie. Et on a essayé de croiser un petit peu nos travaux, soit sur les migrations internationales ou soit sur la santé, pour essayer de comprendre un petit peu tout ce qui se jouait autour de l'accès aux soins pour les personnes, pour les migrants. Donc, on a relevé ces six facteurs essentiels. Alors, je tiens à préciser que la façon dont on doit lire le schéma, c'est que il n'y a pas de hiérarchie entre ces facteurs. Il n'y a pas des facteurs plus importants que les autres. Ce qui compte, c'est vraiment les liens entre les thèmes et la façon dont un facteur va influencer l'autre à différents moments. Donc je ne détaillerai pas tous les facteurs ici parce que c'est plutôt des processus complexes. Je me concentrerai sur ceux qui sont en bleu, qui sont les facteurs les plus concrets, on va dire, des questions de l'accès aux soins. Les trois autres facteurs, je vais quand même en parler très, très rapidement, les questions de mondialisation, de politique nationale et la question de l'ethnicité et des cultures en santé, est une chaîne de processus qui n'est pas si déconnectée que ça de l'accès aux soins. Il existe en effet aujourd'hui des processus qui interviennent à l'échelle mondiale, donc des processus qui impliquent des mobilités internationales d'individus, des processus aussi qui font en sorte que émerge ou réémerge le risque infectieux à l'échelle mondiale, des processus aussi de mondialisation qui se jouent autour des mobilisations internationales autour de l'accès aux droits à la santé, autour des droits fondamentaux. Donc ces processus à l'échelle mondiale suscitent une variété de réponses politiques, donc cette fois-ci à l'échelle nationale, des réponses qui influent donc sur le fonctionnement des systèmes de santé, mais pas uniquement, parce que ça implique des réponses aussi de la part des politiques d'immigration. C'est ce qu'on voit de plus en plus dans nos travaux. Et enfin, la présence et l'évolution ou les régressions de ces politiques nationales a aussi un impact sur les représentations sociales que l'on se fait des migrants en termes d'ethnicité ou en termes de culture, qui joue sur l'accès aux soins. J'y reviendrai un tout petit peu après, et notamment sur les catégories administratives. Donc là, j'en viens aux facteurs que je détaille un petit peu plus. Donc, comme je disais, ces politiques nationales ont un impact important sur la mise en place de catégories qui sont importantes pour l'accès aux soins. Cependant, ces catégories qui existent posent énormément de questions dans la recherche, dans la mesure où on se rend compte qu'elles génèrent des processus de différenciation et de hiérarchisation entre migrants qui appartiennent aux différentes catégories. Donc deux exemples pour illustrer ça. Tout d'abord, les catégories même de l'assurance maladie que l'on connaît en France. Donc la catégorie des personnes, par exemple, qui sont demandeuses de l'AME, donc de l'assistance médicale d'État, sont aujourd'hui tous des migrants en situation irrégulière. L'irrégularité du séjour est la condition pour obtenir l'AME. C'est un droit que l'on va demander directement aux caisses primaires d'assurance maladie. Il s'agit là d'une catégorie qui est donc potentiellement stigmatisante, par rapport au statut administratif. Et c'est une catégorie pour laquelle on observe d'importants retards et d'importants dysfonctionnements dans le traitement, enfin, dans l'instruction des dossiers. Donc en raison d'un ensemble de logiques qui sera un petit peu complexe d'expliquer, enfin un petit peu long plutôt, d'expliquer ici, mais qui sont assez bien expliquées par des sociologues et des anthropologues qui travaillent sur les processus de traitement des dossiers de l'AME. Donc il se trouve que ces dossiers de patients qui sont demandeurs de l'AME ne sont pas prioritaires dans les fonctionnements des caisses, et on constate enfin l'impact direct et des recours tardifs, voire du non-recours chez les patients. À cela intervient un deuxième problème en conséquence, et notamment le problème du glissement en termes de représentation sociale négative sur la figure du migrant malade qui se répercute directement sur les demandeurs de la CMU. Donc les demandeurs de la CMU d'origine étrangère sont indirectement victimes de la représentation que l'on se fait de ces catégories, dans la mesure où on a pu constater sur le terrain la présence de suspicions chez les personnels de l'assurance maladie, d'éventuelles fraudes aux prestations sociales. Donc ça, une catégorie qui enjoint les professionnels de l'assurance maladie à traiter différemment les dossiers, à mettre en place aussi des processus de retard de traitement de dossiers, demander des pièces supplémentaires, etc. etc. Donc là, on est dans un type de catégorie donc, qui relève de la politique du guichet, dont on entend souvent parler, et qui nous font donc, nous interroger sur les effets même de ces catégories, non seulement sur le statut administratif et l'accès aux soins des personnes, mais aussi sur les représentations que l'on se fait des personnes qui en sont bénéficiaires et de la façon dont, administrativement, on les traite. Donc toutes ces catégories ont un impact sur les retards, ou les non-recours aux soins chez les demandeurs. Une autre catégorie administrative également qui interroge beaucoup en recherche, c'est la catégorie de la régularisation pour soins dans la demande d'asile. On a là une catégorie qui pose la question de la médicalisation croissante de la demande d'asile. Donc là, je vous renvoie aux travaux de Didier Fassin ou d'Estelle Dalloin, qui ont vraiment travaillé sur le problème, entre guillemets, créé par cette catégorie. Il s'agit d'une catégorie qui induit un processus de légitimation du corps malade ou du corps souffrant au détriment des autres demandeurs d'asile qui, eux, font une demande d'asile sans pouvoir attester de signes cliniques visibles de souffrance. Donc, avec cette catégorie de la régularisation pour soins, c'est cette fois-ci l'état de santé de la personne qui va justifier sa demande d'asile. Et c'est une catégorie qui va donc éventuellement déterminer la façon dont les individus vont se présenter devant les instances du droit d'asile. Donc ces catégories sont extrêmement importantes en termes d'accès aux soins, mais extrêmement importantes en termes de représentation aussi du migrant comme personne, comme individu malade. Autre facteur que l'on rencontre extrêmement souvent en termes d'entrave à l'accès aux soins, c'est les questions d'utilisation de la langue nationale. Donc on connaît assez bien l'importance des difficultés linguistiques et ses impacts considérables sur l'accès aux soins. Donc on sait bien que les difficultés à parler la langue du pays est une des entraves majeures pour l'accès aux soins. Et de plus, comme le montre la sociologue Anne Guillou, entre autres, le niveau de langue qui est pratiqué par les patients a des impacts également en termes de représentation que les soignants se font des migrants. Donc juste pour reprendre quelques exemples qu'elle développait dans sa recherche, un faible niveau de langage ou des difficultés à maîtriser la langue nationale peut révéler une mauvaise intégration du patient et attirer l'attention plutôt sur d'éventuels problèmes sociaux de la personne et laisser un petit peu de côté les autres problèmes. Donc il y aurait une tendance en fait de certains professionnels de la santé à ne s'arrêter qu'aux difficultés linguistiques comme représentatif de problèmes sociaux qui peuvent en avoir un impact sur la santé. Mais de la même façon, elle a pu relever qu'une bonne aptitude par des migrants à maîtriser la langue nationale pouvait au contraire masquer les différences socio-économiques et faire que le professionnel de santé ne voit plus ces éventuelles difficultés socio-économiques comme élément préjudiciable à la santé de son patient. Donc toutes ces questions de maîtrise de la langue sont loin d'être réglées et elles posent énormément de problèmes au niveau de la pratique médicale. Alors pour dépasser ces problèmes, il y a bien quelques institutions qui proposent des traducteurs sur site directement. Alors elles sont quand même assez rares, voire des services spécifiques pour les migrants. Donc c'est le cas de quelques missions Médecins du Monde à Paris notamment, je crois, et au Centre Médical Louis Guillou à Rennes, qui dans ses attributions a un pôle traduction. Alors ce sont des initiatives extrêmement positives quoi, que de vouloir intervenir au niveau même de la traduction, mais dans ce cas, le problème principal qui a été relevé, alors outre la question de la présence d'un tiers lors de la consultation médicale, la question qui se pose ensuite et à long terme, c'est que les patients ne sont après quasiment jamais réintroduits dans le système dit de droit commun et que leur recours aux soins reste cantonné donc à ces services spécifiques. Sans compter aussi pour qu'il y ait ces services, il faut qu'il y ait un budget assez conséquent. Bien sûr. Autre point des facteurs extrêmement prépondérants dans l'accès aux soins, les questions du logement. Alors de la même façon, on sait que la santé est en grande partie déterminée par les facteurs sociaux et environnementaux, incluant donc les conditions de logement. Donc on connaît les effets des logements, les effets des conditions de logement sur la santé. On sait également que les migrants ont plus de difficultés que la population générale pour accéder au logement ou sont plus exposés à la mobilité résidentielle. Donc deux facteurs qui peuvent avoir des impacts préjudiciables sur leur santé, mais aussi sur l'accès aux soins. Dans le cadre de l'accès au logement, donc toujours aujourd'hui, les migrants sont surreprésentés dans les parcs anciens des logements sociaux, dans les logements insalubres et également dans les quartiers défavorisés. On sait également que les migrants font plus souvent que les autres populations l'expérience de la discrimination dans l'accès à la location ou au crédit immobilier, qui fait qu'ils expérimentent certaines difficultés à se sortir de ces questions, des logements les plus insalubres ou situés dans les quartiers les plus défavorisés. Et ils doivent donc pouvoir compter sur les réseaux sociaux pour garantir une bonne installation, aussi bien matériellement que socialement. Donc l'accès au logement et à un logement décent est en soi un problème pour l'état de santé et pour l'accès aux soins. Mais également les questions de mobilité résidentielle interviennent à ce niveau-là. On sait donc corrélativement au fait que les migrants sont plus souvent présents dans les parcs, dans les logements sociaux ou les logements insalubres. Ils sont donc forcément plus souvent victimes aussi des impacts négatifs de régénération urbaine ou ce qu'on appelle de gentrification. C'est-à-dire que lorsque des quartiers sont repérés comme devant être bénéficiaires d'une opération de régénération urbaine, ce sont ces populations-là qui sont les premières déplacées au cours des opérations de régénération urbaine, ce qui a un impact directement négatif sur l'accès aux soins, notamment sur l'accès aux soins primaires, et un effet encore plus préjudiciable pour les personnes qui sont suivies pour des maladies chroniques. Donc il y a tout un ensemble de géographes de la santé qui a travaillé sur ces questions de déplacement et de suivi des soins une fois qu'on est sorti de son quartier. Donc, en guise de synthèse sur cette question, donc on est là de façon globale. Enfin, quand on regarde ce phénomène, enfin cette question de l'accès aux soins de façon globale, on est là dans un phénomène politique et social multiscalaire, donc qui se joue à différentes échelles, échelle locale, nationale et supranationale. On a un phénomène qui est également donc social, dans lequel les groupes et les individus vivent différentes expériences différentes trajectoires, des trajectoires qui elles-mêmes dépendent des contextes sociaux et géographiques dans lesquels les individus évoluent. Donc pour le dire clairement, aujourd'hui, les démarches de santé ne sont pas influencées uniquement par l'offre de soins immédiatement disponible, mais bien plus par l'expérience migratoire en général. Donc par expérience migratoire, on entend toutes les expériences qui sont liées au statut administratif, aux modalités d'insertion dans la société, à la connexion ou non à des réseaux, de sociabilité, etc. Donc c'est bien aujourd'hui l'expérience migratoire qui interroge, enfin, ou qui détermine en tout cas les démarches de santé. Donc pour mieux comprendre ces questions d'expérience migratoire, leurs variations entre les lieux, avec certains collègues, nous tentons de mettre en place des analyses à une échelle plus fine, donc l'échelle de la ville notamment, qui révèle encore mieux les multiples entraves et les multiples barrières sociales et barrières spatiales à l'accès aux soins. Donc j'en viens donc à l'analyse du recours aux soins des primo-arrivants et à cette étude qu'on avait menée à l'échelle de Rennes. Alors juste pour vous faire un point de contexte, comment est-ce que j'en suis venue à travailler sur cette question-là. Donc j'étais, je crois que c'était lors d'un séminaire ou d'une soirée comme ça organisée à Rennes, il y a des professionnels de la santé et une doctorante en médecine qui m'ont interpellée sur la difficulté qu'ils avaient à traiter des données dont ils disposaient sur les recours aux soins de primo-arrivants qui fréquentaient le centre médical Louis Guillou, qui est le centre d'accueil, un centre de santé spécialement destiné aux migrants et aux primo-arrivants. Donc ces personnes, ces chercheurs, avaient en leur possession des données sur la consommation de soins des primo-arrivants. Et à partir de ces données, ils voulaient interroger l'effectivité des structures locales à Rennes et en gros savoir si l'adressage s'effectuait correctement entre les différents services et les différentes structures. Leur problème, c'est qu'ils étaient confrontés à des parcours de soins complètement illogiques, entre guillemets, et à première vue, comme ça, ils ne savaient pas quoi faire de cette irrationalité dans les recours aux soins. Ils avaient certains profils de primo-arrivants qui surconsommaient, d'autres qui sous-consommaient, d'autres qui n'avaient aucun recours aux soins. Ils pouvaient percevoir donc certaines difficultés d'adressage, et en particulier l'adressage de leur structure spécifique au système de droit commun, y compris lorsque les migrants avaient des droits ouverts à l'assurance maladie. Alors au final, c'est pas tellement les structures qui étaient interrogées à partir de leurs données, c'était bien les parcours de soins ou les itinéraires thérapeutiques des primo-arrivants qui étaient questionnés. Et la proposition, donc pour mieux comprendre ces recours aux soins, ces consommations de soins, ça a été d'analyser ces recours à la lumière des contextes dans lesquels les migrants, ces primo-arrivants évoluaient. Dans la mesure où on sait que le recours aux soins n'est pas uniquement dépendant de l'offre de soins, mais qu'elle dépend bien de l'accès à un certain nombre d'autres prestations ou d'autres facilités. Donc ils avaient un échantillon de personnes qui étaient arrivées entre le 1er août 2007 et le 31 décembre 2007, donc sur une période de 5 mois. Ils avaient avec eux des données sur les recours aux soins de personnes dont un dossier administratif avait été constitué au service d'accueil et d'orientation, donc qui est un service qui s'occupait uniquement, je dis qui s'occupait parce qu'il n'existe plus maintenant, qui s'occupait uniquement des primo-arrivants qui venaient d'arriver à Rennes. Et donc, il s'agit dans l'échantillon étaient inclus des personnes qui étaient présentes sur le territoire depuis moins de 4 mois. Donc, là était leur définition du primo-arrivant. Donc, sur 170 personnes dont les données ont toutes été anonymisées, donc qui sont arrivées au cours de cette période et puis dont un dossier administratif a été constitué, ils ont tiré au sort 48 personnes et à l'analyse des profils, ils ont fait ressortir 7 parcours types que je vous restitue ici. Donc ces parcours types, Donc, ils avaient au début uniquement ce qui concerne les démarches de santé. En reprenant les dossiers des personnes, on a retracé le fil de leur situation administrative et le fil de leur situation par rapport au logement. Et on a ensuite fait des typologies un petit peu pour essayer de synthétiser tous les résultats. Donc les deux premières personnes sont dans une typologie de l'exclusion. Il s'agit de personnes à la situation administrative qu'on pourrait qualifier de bloquées. Donc des personnes dont l'ouverture des droits est compromise, dont des personnes dont la nature des droits est changeante. Donc par exemple, ces deux personnes, j'ai réouvert les parcours l'autre jour, sont des personnes qui ont eu plus de 30 jours pour obtenir l'ouverture de leurs droits à l'assurance maladie, alors qu'ils pouvaient y prétendre bien avant. Ce sont des personnes dont les modalités de logement étaient complètement déconnectées de l'aide sociale d'urgence au logement, donc des personnes dont la situation reposait uniquement sur l'accueil auprès de compatriotes ou auprès de réseaux sociaux, de personnes qui voulaient bien les héberger, donc des personnes dont la situation par rapport au logement était potentiellement fragile et surtout très, très précaire. Et donc, Dans ce cadre, on s'est rendu compte que les démarches de santé de ces deux personnes étaient très rares, voire absentes, une des personnes qui n'a jamais consulté, et que si recours aux soins il y a, il se cantonnait aux structures spécifiques d'accueil aux primo-arrivants. Les deuxième catégorie de typologie sont les individus qui sont dans des systèmes de la précarité. Donc des personnes aux situations administratives qu'on pourrait qualifier de lentes ou de peu fluides, enfin d'entravées en général. Donc il s'agit d'individus isolés, qui sont isolés, donc perdus dans les démarches à effectuer et perdus entre les différents services et les différentes administrations. Là, il s'agit de personnes qui ont mis entre 9 et 14 jours pour voir leur droit à l'assurance maladie ouvert. Alors qu'ils étaient donc en cours de demande d'asile. Il s'agit de personnes dont la situation par rapport au logement était cette fois-ci dépendante de l'aide sociale d'urgence. Donc c'est des personnes qui appelaient de jour en jour le 115 pour avoir un logement. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait que ces personnes enchaînaient des périodes sans hébergement déclaré, où quand ils étaient logés, on observait la multiplication de courtes périodes d'hébergement dans des lieux extrêmement différents de la ville, voire du département, parce qu'ils pouvaient être logés en dehors de Rennes. Donc la personne qui est numéro 1, donc sur la deuxième ligne, est une personne qui a eu, par exemple, en 3 mois, 3 périodes de plus de 10 jours sans domicile déclaré, et qui a connu 6 lieux d'hébergement différents à chaque fois sur des courtes périodes, sachant que ces courtes périodes sont renouvelées quotidiennement. Les personnes numéro 4 et 6, pareil, sur une durée de 3 mois, ont eu 5 à 7 lieux d'hébergement différents entrecoupés de périodes sans domicile déclaré. Et donc ce sont des personnes dont les démarches de santé sont toujours rares et qui restent également, comme la catégorie précédente, toujours cantonnées à des consultations dans les structures d'accueil spécifiques, y compris donc quand les droits à l'assurance maladie ont été ouverts. Et la dernière catégorie de personnes, typologie de la personne qui bénéficie de l'aide. Là, en l'occurrence, c'est une personne qui a été aidée a été prise en charge par le CADA, donc le centre d'accueil des demandeurs d'asile. Donc une personne dont la situation administrative a été stabilisée très tôt, avec une ouverture des droits donc à l'assurance maladie très tôt et une prise en charge donc dans une structure. Donc du fait de la prise en charge par le CADA, c'est une personne qui a pu avoir accès à un logement stable. Qui a obtenu un appartement sur le temps de la demande, que la demande d'asile soit traitée. Et on s'est rendu compte que pour cette personne, les démarches de santé utilisées de façon alternative, aussi bien les plateformes spécifiques qui lui étaient proposées que les structures dites de droit commun, donc des recours à des médecins généralistes, et chose très rare, également des recours à des spécialistes, et notamment des dentistes, enfin des recours à des soins dentaires. Donc deux constats généraux ressortent de cette étude. Hein. Premièrement, c'est surtout le retard dans les démarches de santé, voire le non-recours aux soins qui ressort des démarches, des logiques de recours, en tout cas des profils des primo-arrivants. Et deuxième chose, c'est que les démarches de santé et le parcours de soins n'apparaît vraiment que coordonné ou rationnel. Donc coordonné en termes de logique d'adressage entre structures spécifiques et ensuite versement dans les structures de droit commun. Donc cette coordination, cette rationalisation des recours aux soins ne se fait que lorsque la situation par rapport au statut administratif et par rapport au logement est stabilisée. Donc ça nous porte à revenir encore une fois sur la définition de la santé et la définition de l'accès aux soins qui ne se joue pas que au niveau de l'offre de soins ou de sa disponibilité, mais qui se fait bien en fonction d'un ensemble de facteurs qui ne concernent pas uniquement la santé. Et on le voit bien, la santé, même si il s'agit d'un droit fondamental, elle n'apparaît ici pas prioritaire dans les parcours migratoires. Et la santé n'apparaît que possible lorsque les questions de l'accès au droit, les questions du statut administratif et les questions de l'accès à un logement stable uniquement lorsque ces domaines-là sont sécurisés. Donc on le voit bien. Enfin là, on a retranscrit que cette parcours, mais sur l'ensemble des parcours, c'est une tendance qui vraiment se manifeste à chaque fois. Hein. Les démarches de santé et l'accès aux soins ne s'enclenchent que lorsque le statut administratif et la question du logement est réglée. Donc je conclurai. Là-dessus, je prendrai peut-être un petit peu plus de temps pour parler de ces questions de l'accès aux soins. Donc tout d'abord, ouais, ce sont des constats qui corroborent ce qu'on savait déjà des facteurs de retard ou des facteurs de non-recours aux soins. Alors ces facteurs de non-recours aux soins, on les connaît assez bien pour les personnes précaires en général. Elles sont dépendantes du dispositif de l'offre de soins, enfin de la capacité à prendre en charge des questions spécifiques aux personnes précaires, dépendent également de l'organisme prestataire et dépendent également de l'individu, hein, sa perception de la maladie, de la guérison. Mais pour les primo-arrivants, à ces facteurs-là s'ajoutent des facteurs spécifiques qui dépendent de leur situation administrative. Les changements de statut, voire l'illégalité, peut-être facteur de dissuasion hein, pour se rendre dans des organismes de santé. À cela s'ajoute également pour eux donc la situation par rapport au logement, comme on vient de le voir, s'ajoute également les difficultés linguistiques, donc qui sont reconnues hein, comme obstacles majeurs aussi de non-recours et qui ont pour conséquence d'entraver l'accès au droit, mais aussi d'entraver les démarches pour s'adresser à un établissement de santé ou à un professionnel de la santé. S'ajoutent également les différences que l'on dit culturelles, avec l'importance hein, des représentations de l'altérité dans la maladie, et aussi bien du côté du patient que du soignant. Et enfin, les entraves spatiales, qui concernent les mobilités de santé, quand elles peuvent devenir contraintes au quotidien, quand les distances d'accès aux soins sont importantes. La multiplication aussi de ces mobilités peut avoir, enfin des mobilités qui sont liées au logement ou à la situation quotidienne peut avoir un impact sur le suivi des soins, notamment la multiplication des lieux d'hébergement peut créer des ruptures dans les suivis pour des personnes qui ont notamment pour les maladies chroniques. Et enfin donc ces lieux d'hébergement même peuvent être éloignés de lieux de soins et provoquer également des ruptures. Donc je finirai là-dessus. Voilà, donc moi c'est une recherche qui en tant que géographe m'amène vraiment à réfléchir sur la notion de parcours de soins, sur cette notion d'idées logiques que l'on a, enfin de la logique que l'on se fait du parcours de soins. Et cette notion quoi, de parcours et de coordination entre les soins est vraiment réinterrogée à partir du moment où on la regarde à partir d'une population spécifique qui a qui connaît un cumul et un enracinement dans le temps, on va dire une inscription dans le temps quoi, de tous les facteurs qui vont retarder l'accès aux soins. Voilà, donc je suis prête à répondre à d'éventuelles questions. Merci.
Les difficultés d'accès aux soins des migrants sera proche des difficultés de l'accès aux soins de toutes les populations dites en situation de précarité. Parce que j'étais à un congrès la semaine passée sur le congrès des 5 continents qui montrait les entre autres les différentes migrations, etc. Et bon, d'abord, si on prend par exemple le Poitou-Charente, notre plus forte migration, nous, ce sont les Anglais, en termes simplement statistiques. Et je pense que les Anglais du Poitou-Charente n'ont pas du tout les mêmes difficultés d'accès aux soins que les populations migrantes extrêmement, qui ont d'autres difficultés de précarité en particulier.
Alors, vous avez complètement raison sur ces questions-là. Donc, les migrants, donc, comme je le disais à la fin de l'exposé, ont en effet les mêmes problèmes de l'accès, enfin les mêmes problématiques de l'accès aux soins que les personnes précaires. Pour les primo arrivants et pour les personnes, enfin pour les migrants les plus marginalisés, s'ajoutent encore des facteurs supplémentaires. Et le problème, en fait, les questions qui se posent autour de ça sont liées aussi aux questions de temps, c'est-à-dire que l'enracinement de ces difficultés se fait sur, il est difficile, par exemple pour des migrants qui réussissent, on va dire, qui ont un profil socio-économique ascendant, de sortir de ces difficultés. C'est-à-dire que même si la situation socio-économique s'améliore, il y a le poids d'autres facteurs qui est présent en permanence, notamment le poids des représentations sociales dépréciatives sur leur figure, quoi, sur l'altérité, quoi, la figure de l'altérité qu'ils représentent. Donc j'aurais tendance à dire que c'est... que ça se rapproche des personnes en situation précaire en général, mais que c'est peut-être encore pire quelque part, parce qu'il y a plein d'effets insidieux. Je voulais rajouter sur la question des Anglais, ouais, c'est intéressant parce que j'en ai discuté, je m'est déjà arrivé d'en discuter avec des médecins qui exercent par exemple en milieu rural et en Bretagne ou ailleurs, où il y a aussi beaucoup de migrants anglais. Bon, alors, eux, les problèmes ne sont pas socio-économiques, hein, on est bien d'accord, mais ils sont notamment linguistiques. Et en général, ils ne parlent pas le français. Donc, il faut qu'ils aient à disposition, enfin, c'est-à-dire très souvent qu'ils ne parlent pas très bien le français, il faut qu'ils aient à disposition aussi un médecin généraliste qui parle le français. Et qui parle l'anglais, pardon. Et j'avais discuté avec un médecin généraliste en Charente-Maritime, qui me disait qu'il avait une grosse partie de sa patientèle qui était britannique parce que c'était un des rares médecins qui faisait ses consultations, enfin qui était capable de faire ses consultations en anglais. Donc,
c'est plus facile de trouver un médecin qui parle anglais qu'un médecin qui parle...
Oui, qui parle... Oui, oui. Ouais. Ouais, ouais. Et une autre question qui se pose aussi, quelque part, hein, pour... Alors, je ne connais pas d'études qui parlent de ça en France, mais il y a une chercheure en géographie de la santé qui travaille à l'université de Rouen, qui fait ses études sur le sud de l'Espagne, sur l'Andalousie, et qui montre, elle, les difficultés auxquelles sont confrontées les structures de soins en Andalousie, entre la présence d'une population immigrée britannique qui est très demandeuse de soins de qualité, mais dans le domaine de la gérontologie, en général. Et des primo-arrivants, qui sont travailleurs précaires, extrêmement précaires dans les serres en Andalousie, dont les problèmes de santé poussent les services aussi à se spécialiser ou se respécialiser en maladies infectieuses ou autres. Donc, en effet, pour ces migrants britanniques qui ont des problèmes de santé, il faut aussi qu'ils aient une offre en gérontologie disponible, ce qui n'est pas forcément le cas dans les territoires ruraux.
Oui, moins d'accouchements chez les Anglais.
Ouais.
Du coup, tout ça. Ouais.
J'ai répondu à votre question.
Oui. Mais, moi, je travaille à la prison et il y a effectivement beaucoup de publics extrêmement précaires.
Ouais.
L'accès aux soins, même dans ce milieu où l'accès aux soins est tout à fait possible, c'est-à-dire qu'il y a à peu près, peuvent bénéficier de tous les soins. Les personnes incarcérées peuvent bénéficier de tous les soins, y compris dentaires, y compris ophtalmo, y compris. Mais on voit bien qu'il reste quand même des difficultés qui sont liées aussi au fait que je pense que ce n'est pas dans leur priorité.
Ouais.
Même en étant incarcérés. On voit bien la difficulté, par exemple, pour les détenus de se faire soigner les dents et les yeux. Alors que c'est vraiment possible. Il y a des dentistes, il y a d'autres facteurs. Qui entrave cet accès aux soins.
Ouais, là, je pense que les travaux que je connais qui abordent cette question parlent de ces processus en termes déjà d'image de soi négative ou dépréciative, en tout cas, qui fait qu'on ne va pas aller vers ça, et de méconnaissance aussi du système de soins, ou en tout cas de difficulté à s'imaginer comme consommateur de ce type de soins, et surtout de ce type de lieu qui est étranger souvent à la culture entre guillemets de la personne. Ouais.
Est-ce qu'il y a des problèmes de civilisation ou de religion, c'est-à-dire que des gens qui arrivent, qui sont d'un pays d'une religion très différente, pour se faire soigner en France, je pense à certaines personnes. Notamment des Maghrébins qui ne veulent pas se faire soigner par des. Qui ne veulent pas que les femmes soient soignées par des hommes. Est-ce que vous rencontrez ça chez des gens qui arrivent des...
Alors, moi, je ne sais pas comment on peut mesurer ce phénomène, parce qu'on a tendance à le voir aussi très médiatisé, très rapidement. Je sais pas trop à quel. Quelle proportion ça prend. Est-ce que ça concerne les primo-arrivants? Je ne suis absolument pas sûre. Parce que ce qu'on voit dans les consultations de soins pour les primo-arrivants, ce n'est absolument pas ces questions-là, parce que l'urgence est de se soigner, on ne se pose pas tellement la question. C'est des questions qui interviennent peut-être chez des migrants qui sont installés éventuellement depuis plus longtemps ou qui... Dont ces recours en termes de différences culturelles ou de pratiques religieuses de santé ont pu être réfléchis ou mis en place, en tout cas dans une réflexion plus globale. Mais je ne suis pas sûre que ce soit la norme, en tout cas non. Que ce soit un phénomène qu'on puisse voir émerger de temps en temps, oui. Mais... paraît difficile à évaluer. Après, ce qui existe, alors en dehors de ces phénomènes autour desquels on cristallise parfois, ce qu'on voit arriver, ce sont des recours pluriels, c'est-à-dire des personnes qui ont une pluralité de recours, enfin qui ont recours à une pluralité de systèmes de santé. Donc des patients qui vont aller se soigner suivant tout ce qui est disponible, tout ce qui est disponible dans l'offre de soins locale, et qui vont aussi aller piocher dans l'offre de soins dite traditionnelle ou dans les conceptions, dans les grandes représentations de la santé qui sont originaires de leur pays, enfin qui proviennent de leur pays d'origine. Donc on peut.
C'est pas propre aux migrants.
Non, voilà.
50% des personnes qui ont un cancer.
Voire magnétiseur.
Vont voir un cancérologue, un radiothérapeute, un chimiothérapeute, et aussi des médecines parallèles. Ouais.
Oui, c'est. Alors c'est juste un peu plus visible dans le cas des migrants parce que peuvent s'organiser autour de ces recours de ces logiques plurielles ou des recours à une pluralité de systèmes de soins de santé. Là se jouent des mobilités particulières, donc il y a des gens qui vont être prêts à repartir au pays d'origine pour aller voir le marabout ou d'autres praticiens traditionnels. Il y a des envois parfois de médicaments qui peuvent se faire, donc ça se voit un petit peu plus que en effet les patients autochtones, on va dire, qui vont à 50 km en milieu rural. Mais en effet, je ne sais pas si c'est spécifique aux migrants. Vous avez raison.
Est-ce qu'on a pu mesurer l'importance de la communauté d'accueil pour un migrant et si sa communauté d'origine est implantée de manière importante?
Ouais. Alors mesurer, non, c'est parce que c'est difficile, mais c'est une corrélation qui serait un petit peu difficile à mettre. Mais en tout cas, c'est des choses qu'on a pu voir. Alors comme moi, j'ai travaillé beaucoup avec le centre médical Louis Guillou à Rennes, la communauté, je pense que ça doit être à peu près similaire à Poitiers, la communauté de migrants la plus représentée à Rennes, c'est les Marocains. Et on sait qu'il y a beaucoup de Marocains qui arrivent en primo-arrivant, donc des statuts différents en France. Ils ne passent jamais par le centre médical Louis Guillou. Donc on sait que pour la communauté marocaine, il y a un accueil communautaire, enfin on va dire communautaire. En tout cas, il y a des liens sociaux qui font que les Marocains réussissent, enfin, peuvent être hébergés assez facilement par des compatriotes, peuvent être adressés directement par des compatriotes à des médecins généralistes qui sont présents sur le territoire rennais et qui ont l'habitude de travailler auprès de Marocains. Donc on voit bien comme ça qu'il y a des nationalités dont on sait qu'elles arrivent et qu'elles à Rennes, mais qui ne sont pas présentes en effet dans les structures d'accueil. Donc, ouais, éventuellement, le public présent dans les structures d'accueil peut représenter le public qui est, primo-arrivant, le plus marginalisé. Donc, on peut imaginer après, en regardant, par exemple, les chiffres de l'accueil en général, on peut imaginer qu'il y a une grande partie, je pense, des primo-arrivants qui sont directement dans des cercles sociaux déjà implantés et qu'il y a une entraide qui est mise en place, ouais.
Privilégier l'accueil dans certaines villes parce que la communauté va être plus importante et des migrations à l'intérieur du territoire d'une ville à l'autre parce que effectivement, la communauté est suffisante pour assurer un soutien éventuellement à 200-300 km, ça va avoir lieu. Je ne sais pas, est-ce que ça peut.
Alors moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a un peu de tout. Dans certaines villes, en effet, on peut repérer qu'il y a des logiques comme ça qui s'opèrent. Je pense la population turque ou kurde de Rennes, qui est assez connue. Je pense que le phénomène de la population guinéenne à Poitiers aussi le montre un petit peu. Mais en même temps, on a aussi pas mal de... Je pense à part égale, on se rend compte qu'il y a des individus aussi qui essaient de contourner cet accueil communautaire et qui préfèrent aussi, dans une certaine mesure, parfois rester dans l'invisibilité et justement ne pas aller dans les lieux où cet accueil est très structuré, tout simplement pour... le côté un peu oppressant de la communauté. Donc certains migrants, hein, souvent des hommes seuls, hein, qui préfèrent des trajectoires individuelles et qui justement ont des stratégies d'évitement de ces lieux où la communauté est très présente. Et je repense juste justement en parlant de ça au travail qu'avait fait une étudiante donc au laboratoire Migrinter il y a 2 ans sur l'accès aux soins des femmes atteintes du VIH-Sida. Et dans son mémoire, elle montrait bien que les femmes atteintes du VIH-Sida, enfin les femmes qu'elle avait interrogées, hein, je ne dis pas toutes, hein, mais leur logique n'était pas spécialement de faire en sorte que leur accès aux soins et l'observance du traitement soit parfait. Les logiques qui les occupaient au quotidien, c'était vraiment de faire en sorte que la communauté ne se rende pas compte qu'elles sont atteintes du VIH et de faire en sorte de mettre à l'abri leurs enfants d'éventuels problèmes ou de regards malveillants de la part du groupe. Et ces femmes, même toutes en fait, celles qu'elle a interrogées, à un moment sont parties de la ville où elles résidaient parce qu'elles sentaient qu'elles commençaient à être repérées comme migrantes. Donc elles sont parties, elles ont tout laissé en plan, elles sont allées dans d'autres villes françaises et ont recommencé toute la mise en place du protocole de soins. Donc l'accueil, cette idée de l'accueil communautaire, elle a double tranchant aussi, ça dépend des logiques individuelles. Ce serait vraiment difficile de voir des tendances comme ça, territoriales, très, très précises. Alors si elles existent peut-être, mais en même temps, elles ne sont pas une norme que les migrants suivent dans leur parcours.
Est-ce qu'il existe des études épidémiologiques sur les besoins de santé, d'éventuels besoins de santé spécifiques de peut-être certaines populations migrantes? Je pense notamment à des pathologies liées aux conditions dans lesquelles se sont fait les déplacements. Qui peuvent en eux-mêmes entraîner des pathologies, que ce soit les motifs du départ du pays ou les conditions de déplacement. Est-ce qu'il y a eu des études de fait sur des conséquences sanitaires, voire aussi sur les conséquences sanitaires de l'absence d'organisation adaptée de l'accès aux soins?
Alors moi, les études que je connais ne sont pas épidémiologiques sur cette question. Il faudrait rechercher. J'ai juste en tête des travaux. Alors, c'est des travaux qui ont été réalisés en Grande-Bretagne sur les réfugiés somaliens, qui montrent vraiment que les priorités en termes de mise en place d'actions de santé à destination de cette population-là en particulier. Les recherches en tout cas de ces collègues-là montrent vraiment que la population somalienne a besoin de soins psychiatriques, santé mentale, qui sont en particulier prendre en charge le traumatisme lié aux conditions de départ et les conditions en Somalie et les traumatismes de l'exil et du déplacement même qui a impliqué donc la mise en œuvre d'une parcours souvent assez traumatisant. Et aujourd'hui, il est vraiment attesté, en tout cas à Londres, sur les communautés de réfugiés somaliens, que le grand besoin est autour des questions de santé mentale, ouais, enfin des recours en santé mentale. Alors voilà, maintenant qu'ils ont dit ça, donc les pouvoirs publics essayent un peu de mettre ça en place, mais pour l'instant, l'offre n'est absolument pas encore adaptée à ces besoins qui ont été repérés et puis admis comme essentiels. Et deuxième recherche à laquelle je pense, c'est les travaux récents de Smaïn Lacher sur les parcours de femmes africaines subsahariennes et les traumatismes vécus au cours même de la migration et tous les traumatismes liés aux violences et aux sévices qu'elles ont subis lors de leur parcours. Alors, le travail qu'il a fait, c'est Smaïn Lacher, elle s'arrête en Afrique du Nord, parce que souvent ce sont des femmes qui n'ont pas qui ne sont pas arrivés jusqu'en Europe, donc ils traitent plus de la façon dont ces questions-là apparaissent pour les personnes du HCR. Donc comment prendre en charge ces questions de santé mentale et physique en même temps dans les camps de réfugiés du HCR. Et sur le contexte français, je vois pas trop d'études pour l'instant, mais il doit y en avoir, je pourrais y réfléchir.
Justement, la question que je voulais vous poser était plutôt centrée sur l'importance des psychotraumatismes. Alors, plutôt en France, où là, l'accès aux soins psy sont normalement plus faciles, gratuits, et où certains d'entre nous avons dans notre clientèle plusieurs patients qui viennent nous voir et qui sont des primo-arrivants. Est-ce qu'il existe justement peut-être des études, ou s'ils ne sont pas des études, en tout cas quelques statistiques autour des problèmes psy, alors parce qu'il existe aussi certains schizophrènes qui arrivent, on en voit, qui ont fait des certificats, des gens qui ont des troubles bipolaires, etc. Et puis un nombre conséquent de gens qui ont des psychotraumatismes. Alors c'est vrai que je vois plutôt cette dernière catégorie, j'en ai plusieurs. Est-ce que là, vous connaissez un peu quelque chose là-dessus ? Est-ce que c'est beaucoup plus facile, par exemple, d'avoir accès à ces soins-là, ou c'est pas vrai, ça ? Ou est-ce que c'est une idée que je me fais ?
Alors,
ou est-ce que vous savez pas, parce qu'on ne sait pas,
non,
on
alors
a pas
y
forcément
y a,
des
ouais,
informations.
Ouais, je commencerai par dire je ne sais pas vraiment cette question-là.
Oui, ça m'étonne
mais
pas.
Je sais que dans l'étude des parcours de soins, je tombe très rarement sur la psychiatrie. Vraiment, vraiment très rarement, quoi. Donc, est-ce que c'est pas plutôt une offre de soins qui est plus accessible une fois qu'on est bien installé et que l'on sait qu'elle est disponible ? Je sais pas du tout. Quel type ouais. Oui, oui, oui.
Ouais. On a aucune. Parce que moi, je travaille aussi dans un centre de consultation. Il y a beaucoup de migrants, primo-arrivants.
T'en as un certain nombre, quand même.
Oui, beaucoup.
Ouais, voilà.
Oui.
Moi, j'en ai quelques-uns. Toi, t'en as beaucoup.
Oui, à Espace Vienne, il y en a beaucoup. Hein.
En
plus, c'est historiquement un centre de consultation médico-psychologique destiné au public extrêmement précaire, en priorité à ces publics précaires, migrants, sortis de prison, juste d'autres catégories. Mais c'est vrai qu'on a. C'est difficile de chiffrer les choses parce qu'on n'a pas de. On ne les repère pas sur.
Mais est-ce qu'on peut dire que l'approche santé mentale est plus facile que pour les autres ? Est-ce que ça, c'est vrai ou c'est pas vrai?
Que pour les autres patients?
Que pour les autres, la cardiologie.
Ah d'accord, les autres services.
Moi, voilà. Je dis oui pour les francophones. Les gens venant d'Afrique du Nord ou des anciennes colonies françaises d'Afrique qui ont au moins un accès à la langue. Mais pour ceux qui n'ont pas du tout, pour lesquels on doit trouver des interprètes qui ne sont pas vraiment dans leur langue, parce que là, c'est hyper difficile. C'est hyper difficile, on ne se comprend pas du tout.
On en a quelques-uns qui viennent, donc tchétchènes, géorgiens, etc.
Oui, des Ossètes, des Abkhazes.
On en a quelques-uns.
Des Ossètes du Sud, moi, l'Ossétie du Sud.
C'est au sud de l'Ossétie du Nord. C'est juste pour te citer.
Mais du coup, ils vous sont adressés comment ils s'adressent à vous directement, les patients, ou est-ce qu'ils sont adressés par d'autres pro...
Oui, ils sont repérés par les réseaux sociaux qui nous repèrent et qui les amènent.
Et c'est vrai que nous, on s'adresse souvent à nous pour des certificats
d'accord.
La nécessité de soins. Alors.
Oui, ou bien encore alors, dans mon secteur, de femmes enceintes. Voilà, et les femmes qui ont accouché et qui ont des difficultés,
hein, ou bien encore bon, des gens, comme je le disais tout à l'heure, qui ont des psychotraumatismes importants, après des agressions, qui ont été battus, etc., violés, etc., etc., parce que d'ailleurs vous faisiez allusion à ça. Voilà, alors, soit sur place, pas forcément pendant le parcours, hein, parce qu'il y en a certains qui viennent, qui étaient, ont été menacés, enfin j'en ai plusieurs qui ont été menacés de mort et qui ont été battus, etc., qui ont réussi à s'enfuir, et qui ont coupé tous les liens parce qu'il ne fallait pas qu'ils soient repérés. Et puis, bon, voilà, alors c'est aussi, il pose le problème de, on n'a plus du tout de nouvelles, parce que si je dis où je suis, après peut-être qu'on pourrait me retrouver. Enfin bon, je ne sais pas si c'est important ou pas, mais enfin en tout cas, ils le pensent. Voilà, donc ce qui accentue aussi l'isolement, voilà, et l'isolement aussi, par exemple à Poitiers, il y a beaucoup de Guinéens, c'est vrai, mais tous les Guinéens ne sont pas entre guillemets frères, puisqu'il y a les Yakankés qui sont les plus nombreux, et puis il y a peu de Soussous, bon, qui est une autre ethnie, et quand on a des Soussous, ils sont embêtés, enfin, il n'y en a pas beaucoup, et ils ne savent pas où aller. Voilà, c'est... Non, ça paraît un peu idiot, mais c'est comme ça. Enfin, c'est ce que j'ai vécu.
Du coup, moi, je, en effet, quoi, sur la santé mentale, en tout cas, ouais, je, enfin, pour moi, c'est la grande inconnue, et c'est la grande inconnue dans le sens où, enfin, pour les primo-arrivants, en tout cas, je, c'est un des domaines qui est le moins cité, en tout cas, par les personnes. Donc, je pense qu'il faut que se mettent en place des logiques d'adressage aussi entre les professionnels, et je pense.
Les hôpitaux de jour pour enfants, dans les 10 dernières années, alors dans tout l'Ouest, hein, que ce soit à Tours, que ce soit à Poitiers, accueillaient entre 50 et 70% de leur population qui étaient des enfants guinéens. Ce qui était le cas à Poitiers, hein, pour toujours enfants.
J'ai des témoignages empiriques, que ce soit de la région ou d'autres régions, un peu en Rhône-Alpes ou à Paris, qui me font dire que. En effet, la problématique de la santé mentale des personnes qui sont en effet orientées par les travailleurs sociaux avec une idée de réelle difficulté de parcours de soins, d'orientation, de lien entre ce qu'est l'accompagnement social et puis ensuite le lien vers le travail sanitaire et psychiatrique ensuite. Il y a beaucoup de témoignages comme ça qui poussent peut-être certaines ouvertures de centres spécifiques pour des psychotraumas liés à l'exil. Et parcours d'exil, je pense à Mana, à Bordeaux, enfin, il y a des centres comme ça un peu sur les territoires français qui montrent qu'il y a une difficulté d'accès aux soins psychiatriques.
Il y a une difficulté, je crois, pour les
psychiatres. Pas l'impression que ce soin-là soit protégé par les difficultés d'accès aux soins. Il y a un réseau qui est en Rhône-Alpes qui s'appelle Samdara, qui est la santé mentale des demandeurs d'asile et des réfugiés en Rhône-Alpes.
D'accord, oui.
Qui a fait une étude, mais au sein du dispositif national d'accueil à Versailles. C'est-à-dire que les demandeurs d'asile, mais encore pas n'importe quel, ceux qui sont pris en charge, le centre d'accueil, l'urgence, etc. C'est en effet un peu restrictif, mais ils montrent de leur étude qu'en effet, il y a un vrai problème d'accès aux soins dans ces soins de santé mentale.
Alors, l'autre problématique dans les soins psychiques, c'est lorsqu'on a. En face de nous, donc des gens qui sont, alors mettons, soit des Africains, soit des gens de l'Europe de l'Est, mais peut-être d'autant plus des Africains, enfin en tout cas pour moi, la difficulté, une des difficultés, c'est la représentation du trouble et la manifestation du trouble. Alors c'est assez banal hein, de le dire, mais en tout cas je raconte un peu ma vie, là, donc à savoir que, je vais pas bien, d'accord, très bien. Ils sont, voilà, on fait raconter un peu son histoire et bon, on repère en effet des parcours traumatiques, potentiellement traumatiques. Mais il faut qu'on essaye d'apprécier le retentissement réel du traumatisme. Hein, voilà. Et c'est là où c'est quand même assez compliqué. Enfin, bon, moi qui suis un peu expérimenté dans le domaine, c'est pas simple. Hein, et pour essayer de faire ressortir les points essentiels, parce que la sémiologie n'est pas toujours exactement pareille. C'est pas simple de proposer ou non un traitement, par exemple, et quel type de traitement, quel type d'accompagnement, alors que c'est un peu moins compliqué quand même pour disons les Européens. Et là, j'avoue qu'on bute aussi un peu, même si on est de bonne volonté, même si on voit les gens gratuitement, etc. Puisque nous, on a accès, enfin, il y a accès gratuit. Les gens peuvent être amenés par les travailleurs sociaux, etc. Enfin bon, donc là, il n'y a pas trop de limitations. Où ils viennent en bus, ils ont compris. Bon voilà. Mais c'est nous dans notre cabinet aussi, hein, enfin que on bute. Enfin moi, je bute en tout cas un peu parfois.
Compréhension des symptômes, des problématiques. Déjà, comprendre le trajet de certains patients, c'est extrêmement difficile.
C'est vrai que la problématique de l'accès aux soins, c'est une problématique complexe, au-delà des difficultés que vous avez évoquées, mais aussi la nécessité, certainement, d'imaginer une organisation particulière des soins pour répondre de façon adaptée à des besoins qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Mmh. Parce que je sais que pendant longtemps, on a assimilé les pathologies de migration à des pathologies infectieuses.
Oui, tropicales.
Je sais que pour les enfants guinéens, on a beaucoup été aidés par les associations genre SAMSA aussi, qui existent. Qui sont venus dans le service, qui sont venus aussi nous décoder certains comportements des enfants. Si on les repérait, nous, comme étant des symptômes d'une clinique européenne, entre guillemets, on était complètement à côté de la plaque.
C'est l'introduction des médiateurs du sang. L'introduction des médiateurs du sang.
Oui. Ouais.
Mon expérience d'un psychiatre en ville, par rapport au fait que vous avez dit l'accès aux soins, en tout cas moi ce que je vois c'est souvent des gens qui sont passés par le CADA, c'est souvent pas mal de mois qui sont tirés en France, et j'arrive pas à comprendre ce qu'ils ont fait, à part qu'ils n'ont pas fait grand chose. Ils ont souvent fait des mois et des mois en France. Mais moi la question que je me pose c'est que ça fait je ne suis pas très convaincu par les lois de la République concernant les étrangers, mais il y a une évolution qui me paraît quand même assez curieuse, c'est que quand j'ai des contacts avec les gens du CODA ou du Code du Monde, c'est quand même. Ce qu'ils disent, c'est qu'il y a quelque chose d'imprévisible, un arbitraire qui se développe. Des gens, enfin, moi, ce que j'ai vu, c'est des gens, je leur fais un certificat, un papier pour dire qu'il leur faut un certificat, qu'il faut le dossier pour que je puisse faire le certificat au titre de séjour pour étranger malade. On leur dit, le papier que vous avez fait le docteur, il est trop vieux. Il fait 3 semaines, il faut qu'il y ait moins de 15 jours. Alors c'est comme une forme de méchanceté institutionnelle qui est quand même assez ouverte. Et maintenant, c'est de plus en plus où ils ne comprennent absolument plus rien sur quoi. Des gens de la même famille, certains à titre de séjour, ne l'ont pas. Et moi, j'étais donc sur la liste des praticiens pour faire des titres de séjour pour l'étranger malade. On m'a montré une liste il n'y a pas longtemps, je n'étais plus. Téléphoner, j'apprends qu'il ne se plus depuis le mois de juin, je ne suis pas prévenu. Donc, au niveau. Il y aura plus grave dans ma vie comme vexation. Mais au niveau de l'arbitraire de ce qu'est l'État français par rapport à ça, c'est quand même assez impressionnant. Quoi. Par contre, c'est plus choix d'autres. C'est une nouvelle liste à laquelle j'appartiens pas. Je continue à faire ça. Par rapport à ça, est-ce que ça se sent que ce pouvoir d'une mise en place institutionnelle qui se développe, est-ce que ça a des conséquences qui sont, quand on arrive à situer, sur la santé des migrants, on se pose depuis quelques mois.
Alors, ce sont des questions qui ressortent en permanence quand on, enfin, dans les échanges qu'on peut avoir comme ça sur la pratique professionnelle ou sur les expériences que les migrants ont du système de santé ou sur l'expérience qu'ils ont des guichets de l'immigration en général. On le ressent à chaque fois. Là, il y a un ensemble de papiers qui est en train de sortir et qui va continuer à sortir sur justement sur ces sur ces logiques politiques, sur les lois extrêmement difficiles qui sont sorties et qui probablement vont continuer à sortir avec et qui si, même si elles sortent pas, il y a tout un pan comme ça de l'aide aux migrants qui est constamment menacé. Donc par exemple l'introduction des 30 euros pour avoir accès à l'AME était une menace qui pendait depuis plusieurs années. Elle est tombée il y a un an, c'était au cours de l'année dernière, au tout début de l'année dernière. Et il y a comme ça constamment aussi des menaces quoi, sur divers accès aux soins. Ensuite, tout ce que vous signalez sur les problèmes institutionnels et les questions que ça pose au quotidien quoi, sur l'obtention des droits, on a de plus en plus de travaux très documentés sur par exemple les fonctionnements des caisses primaires d'assurance maladie. Donc comme je le mentionnais un petit peu tout à l'heure, donc sans trop le préciser, donc là c'est peut-être l'occasion de le préciser. L'obtention de l'AME ou de la CMU se fait donc en se présentant à un guichet de l'assurance maladie. Donc l'AME, c'est un dispositif national donc qui est dicté dans la loi, dont j'ai oublié la référence, et qui est appliqué de façon différenciée dans les différentes caisses primaires d'assurance maladie, parce que pour comprendre cette loi et comprendre son application, il faut se référer à des directives. Et le propre de la directive, c'est la latitude, l'amplitude quoi, de la compréhension. Donc tout va dépendre d'un chef de service qui va comprendre d'une telle façon une directive qui peut être comprise différemment par un autre chef de service et qui va ensuite la faire appliquer différemment par ses services. À cela, donc, à ces difficultés de compréhension de l'application de la loi au quotidien dans les pratiques professionnelles à l'assurance maladie, se superposent les logiques actuelles de réduction des personnels dans ces institutions. Donc, ils font qu'il y a moins de personnel pour toujours plus de dossiers et pour des dossiers qui sont de plus en plus difficiles à traiter. Et se superposent encore à ça les logiques managériales qui s'introduisent de plus en plus dans les services publics, avec le contrôle des professionnels qui officient au guichet, leur contrôle et leur notation aux chiffres, donc au taux de refus, au taux d'acceptation. Donc les agents des caisses primaires d'assurance maladie se retrouvent parfois comme ça, à force d'être contrôlés aux chiffres, pas trop savoir comment faire avec tel dossier et préférant mettre un refus directement ou soit mettre le dossier en attente d'une pièce supplémentaire pour être bien sûr que les droits sont bien demandés, etc. Et ça a comme logique immédiate donc de reculer l'accès aux droits, de repousser l'accès aux soins, voire d'entraver directement l'accès aux soins, et comme logique secondaire mais néanmoins extrêmement importante, qui est le sentiment, enfin le ressenti direct de la dépréciation de l'individu par les services de l'État et la déqualification tout bonnement de la personne en tant que malade et encore plus en tant que malade migrant. Donc ça, c'est des logiques qui sont à l'œuvre et qu'on commence à bien connaître et à retranscrire, qui sont retranscrites dans un certain nombre de travaux. Alors oui, il y a ces logiques par rapport aux caisses primaires d'assurance maladie. Il y a d'autres travaux qui sont sortis ou qui vont sortir. Je vous avais mis des quelques références. Alors, elles ne sont pas référencées là, mais je pourrais éventuellement les faire circuler je ne sais pas si vous avez une liste ou pas. Oui, donc il y a des travaux aussi sur la pratique professionnelle dans des services hospitaliers qui font du suivi des suivis d'observance, notamment pour le VIH-Sida ou les hépatites, et qui montre aussi que les professionnels de la santé qui interviennent dans ces services d'observance ont tendance à adresser quasi systématiquement les patients migrants dans ces services d'observance en tant que patients qui potentiellement ne vont pas respecter le protocole thérapeutique en raison d'une supposée différence culturelle et qui introduirait le fait que les personnes respectent mal le traitement. Donc ça, on le voit aussi beaucoup, donc la surreprésentation des migrants, en particulier des migrants d'Afrique subsaharienne dans ces consultations de non-observance. Également, il y a pas mal de travaux sur la non-représentation des migrants dans les protocoles scientifiques, enfin les essais scientifiques, la non-représentation de ces populations là. Donc on a en effet comme ça, enfin tout un tas de travaux sur les dysfonctionnements des logiques institutionnelles, des professionnels. Pas forcément que les professionnels de santé, mais tous les professionnels qui travaillent auprès de publics migrants en raison des politiques d'immigration et de leur évolution, mais qui est plutôt dans le sens d'une régression.
Est-ce que la meilleure façon d'améliorer l'accès aux soins ou à la santé des primo-arrivants ne serait pas justement d'avoir des actions de proximité, c'est-à-dire d'aller vers ces populations en tant que professionnels de santé, par exemple? Mais ça supposerait une intervention multidisciplinaire par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des exemples actuellement que vous connaissez en France?
Sur l'idée que les professionnels aillent vers les publics migrants, quel...
Moi, je crois que ça se fait avec la PMI, par exemple, pour les enfants. La PMI intervient beaucoup et va beaucoup au devant.
C'est-à-dire aller dans les lieux où ils habitent. Ouais.
Que ce soit la sage-femme de PMI avant l'accouchement, la puéricultrice de PMI.
Je parlais des primo-arrivants, là. Ouais. Spécifiquement des primo-arrivants, je ne parlais pas. Ça suppose un repérage. Est-ce que ce repérage est fait? Comment il est fait? Voilà, c'est ça.
Alors, il y a... Alors, il y a eu... Alors, moi, j'ai l'exemple de Rennes en tête. Jusqu'à l'apparition du ministère de l'immigration et maintenant, et sa disparition, mais bon, sa prolongation dans le ministère de l'Intérieur, il y avait avant 2007 un service d'accueil et d'orientation à Rennes, donc qui faisait de l'accueil auprès des primo-arrivants, mais vraiment primo-arrivants. Donc, c'est-à-dire qu'ils avaient affaire à un public qui venait de débarquer à Rennes avec des filières de passeurs. Alors ce service-là, les accueillait directement et directement les adressait au centre médical Louis Guillot. Et le centre médical Louis Guillot avait donc en place tout un ensemble de consultations médicales et un réseau de professionnels de la santé, de professionnels de santé et du social dans lesquels ils adressaient les personnes. Alors, en termes de stigmatisation, justement, c'était un problème. Et le premier problème, c'était, par exemple, les descentes de police au SAO, au service d'accueil et d'orientation, directement, qui était un gros problème. Et puis ensuite, de la même façon, des descentes, pas des descentes de police au centre médical, parce que là, ça n'a pas encore fait, mais le côté extrêmement repéré de ce centre médical qui était fréquenté... Par des personnes en situation irrégulière. Donc ça, c'est un gros problème. Un autre problème aussi qui se passe par rapport à ce centre médical Louis Guillou, alors dont les actions sont extrêmement louable, hein. Je ne veux absolument pas chercher à souligner que les dysfonctionnements, mais bon, tous les, cette question de toute façon que tu poses, elle souligne le contexte enfin les ajustements hein, du contexte local. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir lorsque au niveau national ça bloque? Donc c'est que du bricolage et enfin pour l'instant. Hein, après, je ne sais pas comment ça va changer ou pas, mais on est vraiment toujours dans le bricolage. Donc, dans toutes les situations que j'ai pu observer, on essaie toujours de faire au mieux. Donc, le deuxième point de questionnement par rapport à une structure qui ne fait que de l'accueil pour des primo-arrivants et qui va les chercher là où ils arrivent, c'est aussi qu'elle étiquette, on va dire, toutes les personnes qui potentiellement travaillent avec eux comme qui met en avant l'éventuel risque sanitaire que représentent les populations migrantes. Je ne sais pas si je m'exprime très bien, mais ce centre médical Louis Guillou, en fait, c'est une émanation et une transformation du réseau Ville-Hôpital. C'est dans le système du réseau Ville-Hôpital, mais en réévaluant leurs objectifs, ils ont fait donc un accueil spécial primo-arrivant. Donc ils sont quand même largement étiquetés VIH, hépatite, tuberculose et migrants. Donc ils ont décidé de se localiser dans un quartier qui est considéré comme une zone sensible. Mais en même temps, personne dans le quartier ne veut travailler avec eux et ils ont extrêmement de mal à s'ouvrir au reste de la société civile, on va dire, parce que justement, leur action est potentiellement stigmatisante pour les migrants. Et il y a un certain nombre d'associations de migrants qui ne veulent pas mettre en place justement de collaboration à cause de cette image négative.
Le problème de tous les centres dédiés à une pathologie, ouais, particulière, mmh.
Voilà.
Donc certains ne veulent pas être.
Il y a une catégorie de migrants dont vous n'avez pas parlé, ce sont les étudiants.
Ah oui. Il y en a plein. C'est une question qu'on se pose beaucoup, qui n'est pas encore très peu, voire pas. justement, enfin, bon, y a là un étudiant de Migrinter qui justement s'interroge sur l'accès aux soins des primo-arrivants et sur l'adressage entre les structures, et on en discutait ce matin en disant mais quelle population cible on pourrait et la population estudiantine je pense extrêmement mal informée sur le système de soins. Ouais. Et deuxième point aussi donc c'est sur la méconnaissance et les problèmes de l'accès aux droits aussi également, parce qu'il y a la situation des étudiants étrangers donc non ressortissants de l'Union européenne qui pose problème, parce que quel accès aux soins ils ont dans la situation dans laquelle ils sont, quoi. Certains ont des assurances privées. La plupart non, donc le remboursement des soins, enfin en tout cas le paiement d'honoraires pose problème, sont pour des budgets d'étudiants. Et l'autre question aussi qui m'interpelle, c'est la situation même du campus de Poitiers, du campus là-haut, qui est quand même s'il est proche du CHU, est quand même aussi déconnecté d'un certain nombre de... Il y a la médecine préventive universitaire. Est-ce que la médecine préventive universitaire peut faire la consultation d'urgence en cas de maladie? Ouais. Voilà. Je pense qu'il y a... Ouais. Vous êtes à la médecine préventive? D'accord, ouais. Donc, ouais, je pense qu'il y a un isolement social et un isolement spatial des étudiants. Enfin, je pense en particulier aux étudiants logés en cité universitaire. C'est surtout ça que j'avais en tête. Les étudiants logés au fin fond du campus qui ont très peu de possibilités de mobilité ou de déplacement vers des services appropriés. Par exemple, on parlait des soins dentaires tout à l'heure ou même l'accès à un généraliste quand on est sur le campus isolé. Je pense que ça peut jouer. Donc, en effet,
Autrefois, il y avait un bureau d'aide psychologique universitaire, un BAPU.
Ouais, tous ces services-là ont tendance maintenant à être complètement délégués à la société civile. Ce sont les associations qui prennent le relais, comme on en parlait aujourd'hui, des associations de volontaires étudiants qui vont accompagner des patients migrants malades dans les réseaux qu'ils connaissent. Voilà, on voit bien, comme l'aurait dit Caroline Isambert si elle avait été là, hein, cette délégation de services publics qui est faite à des associations. C'est quelque chose qu'on voit.
Mon voisin me posait une question tout à l'heure. On reste primo-arrivant en combien de temps ?
Ah oui, bonne question. Oui, sachant qu'il y a aussi plusieurs profils de primo-arrivants, et que le primo-arrivant n'est pas que un Tchétchène sans papier. Oui, primo-arrivant s'arrête quand ?
Puisqu'on est intégré.
Oui, alors ça. Je ne sais pas. Primo arrivant, normalement, oui, c'est quelque chose qui peut. Alors là, dans l'étude qui avait été retenue, c'était vraiment. Il y avait une échelle de temps très courte, mais je pense qu'on peut être considéré primo arrivant à partir du moment, de toute façon, où on est la première génération à arriver. Mais c'est vrai que là. Souvent, en fait, quand on mentionne primo arrivant, on est sur des personnes qui sont depuis des courtes durées sur le territoire. Après, on bascule vers les catégories, on n'a pas des migrants installés.
Mais à partir de quand on est installé ?
Eh oui.
Quand on est dans un CADA, est-ce qu'on est installé ?
Non. Non, parce que quand on est dans un CADA, on n'est pas.
Voilà. Ouais.
Mais on est mieux installé que quand on n'est pas dans un CADA. Voilà. Tout à fait. Ah, il y a un résumé à faire.
Y a-t-il d'autres questions ? Non, mais ce que tu as dit, qui me paraît vraiment très important, c'est que, et on le constate bien, c'est que la santé n'est pas du tout au premier plan tant que les problèmes de logement, de règlement de la régularité du séjour ne sont pas réglés. Et c'est vraiment d'abord c'est un constituant de santé. Et il est très difficile de. Que les personnes viennent spontanément, je pensais aux enfants de migrants, viennent spontanément pour exposer leurs problèmes de santé d'emblée. Et tant que la situation n'est pas réglée, notamment sur le plan administratif, ils vont mal, quoi, ils vont très mal. Voilà, donc nous te remercions de ton intervention qui a été très intéressante. On voit bien que c'est un problème extrêmement complexe avec plein de déterminants et qui en plus se passe dans un contexte de recul voulu, hein, politique, de l'accès aux soins et de la régularisation des immigrés, avec tous les reculs qu'il y a pu y avoir, à la fois sur le plan législatif, mais aussi sur le plan de la santé. On peut le voir aussi par rapport à ce qui se passe sur les expulsions et le fait qu'il y a de plus en plus de restrictions, hein, quant aux motifs médicaux qui sont avancés. J'ai lu dans le papier de Caroline Isambert que la Cour européenne avait décidé qu'il était possible d'expulser des personnes, par exemple des personnes ougandaises atteintes de pathologies style sida, parce qu'il y avait des moyens sida résistants au traitement, hein, en antirétroviraux. Il était possible, et c'est la Cour européenne de justice qui le dit, il est possible d'expulser ces personnes dans leur pays parce que il y a une possibilité d'accès aux soins, hein, alors que c'est sur le plan de la réalité des faits, une condamnation à mort assurée pour ces personnes. Et c'est la Cour européenne de justice qui le dit. Donc voilà, c'est un contexte quand même extrêmement régressif, hein, et bon, ça doit nous inciter à essayer de lutter contre ça. Merci beaucoup, en tous les cas, pour ce panorama extrêmement intéressant.